Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Le leadership est l'influence d'un individu sur un groupe. Il est aussi le sujet de la semaine. Donc, le thème d'aujourd'hui est « Ressenti et intuition au service du leadership féminin ». Avec nous pour en parler, l'auteur du livre « L'intuition chez les femmes d'affaires » publié chez Performance Éditions, Céline Miron. Et après la pause musicale, je m'entretiens avec Marie-Ève Lessine, auteure du livre « Entreprendre en conscience » publié chez Septembre Éditeur. Restez avec nous. Errand de Fleet Foxes. Donc, nous sommes en compagnie de Marie-Ève Lessine, qui est l'auteure du livre « Entreprendre en conscience », publié chez Septembre Éditeur. Bonjour Marie-Ève, ça va bien?
Ça va très bien, merci, bonjour à tous.
Bienvenue à Terre de Femmes. Écoute, tu as un MBA et tu as également une maîtrise. Alors, dis-moi comment on passe d'un MBA à écrire un livre sur l'entrepreneuriat en pleine conscience?
Alors, oui, en fait, le MBA, c'est sûr que c'est comme connoté. J'ai deux maîtrises. J'ai une maîtrise en administration des affaires, une maîtrise en counseling et orientation. Donc, c'est vrai que counseling, ça sonne plus pleine conscience que mon MBA. Mais en fait, le MBA, ça donne une façon de gérer l'entreprise qu'on nous apprend très traditionnelle. Mais dans tout ça, on peut aussi y mettre nos couleurs. Et c'est pas incompatible avec, justement, tu parlais de mon livre tantôt, de ce que dans mon livre, j'ai appelé l'autre sens des affaires, c'est-à-dire matiner toute cette connaissance qu'on nous apprend dans l'MBA avec des valeurs comme l'importance de la santé psychologique au travail, l'intuition, la bienveillance. On se retrouve dans ces sphères-là. Donc, je suis l'exemple et il y en a beaucoup comme quoi ce n'est pas incompatible un MBA. Mais c'est vrai que ça sonne dur souvent, j'avoue.
Ben, est-ce que tu crois que notre vision du leadership est cimentée dans des traditions?
Mais c'est juste si elle est cimentée dans des traditions très dures, très... parce qu'on parle beaucoup, en fait, historiquement, le leadership est très autoritaire.
Oui,
donc, on a toujours, comme humain, cet idéal de se dire qu'on veut mettre des choses dans des cases, puis qu'on va pouvoir gérer ces cases, et comme ça, on n'aura pas de débordement, ce sera facile. Mais si on a vécu un tant soit peu sur Terre, on sait à quel point les relations humaines, c'est quelque chose qui ne peut pas se mettre dans des cases ou autre. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'on a récupéré historiquement de ce leadership plus autoritaire, c'est plus centré sur la tâche plutôt que centré sur les humains et autres, ça a été pour le gros un échec parce que ça a amené beaucoup d'insatisfaction dans le meilleur des cas, puis dans le pire des cas, ça a amené des problèmes de santé psychologique au travail. Et c'est pour ça que ça s'est beaucoup transformé, cette question du leadership. Puis je pense que si on va dans les rayons d'une bibliothèque en psychologie de n'importe quelle université, on trouverait des milliers de livres là-dessus, mais de plus en plus, on parle de leadership avec des attributs un petit peu plus féminins, comme vous l'avez qualifié pour l'émission. Ça s'est appelé aussi leadership authentique, transformationnel, etc., mais qui vient prendre ses distances par rapport au leadership plus autoritaire.
Oui. Est-ce que tu crois que le leadership féminin est très loin, très différent de celui des hommes?
En fait, on parle leadership féminin comme si on venait calquer un sexe ou un genre au leadership, alors qu'en fait, c'est des espaces dans lesquels on vient investir. Et quand on parle de leadership féminin, c'est un leadership qui vient finalement réinvestir des espaces où on va parler de sincérité, d'authenticité, d'empathie, de compassion, de conscience de soi, d'intuition, de ressenti. Donc, des espaces qui sont historiquement plus attribués aux femmes, mais qui ne sont absolument pas introuvables chez les hommes. Bien au contraire, un homme a cette sensibilité-là, les a aussi. Donc, on appelle ça féminin. On peut l'appeler authentique, qui est peut-être plus transcendant au genre.
Oui.
Mais ça se retrouve chez les deux. Mais c'est vrai que naturellement, proportionnellement, statistiquement, il y a plus de femmes qui naturellement ont ce type d'attribut.
Oui, et ce n'est pas nécessairement ou tout le temps apprécié ce leadership-là de la part des hommes. Est-ce que tu vois qu'il y a des hommes qui ont de la difficulté à être encadrés ou à être gérés par des femmes?
Mais en fait, c'est sûr que ça pourrait être déstabilisant parce que c'est d'autres façons de faire. Donc déjà, peut-être pour un homme d'être géré par une femme, c'est difficile, alors qu'elle soit dans un type de leadership qui soit autoritaire ou authentique ou transformationnel ou autre, peut-être que il y a des choses qui, dans l'inconscient collectif, peut paraître moins naturel pour un homme. Mais ça, je parle pas au monde, tu sais, je parle plus par rapport aux observations, aux lectures que j'ai faites.
Oui.
Mais en même temps, je veux pas, derrière homme ou femme, il y a un être humain. Et un être humain, c'est un être qui, même s'il est en gros déni, a besoin de douceur, de gentillesse, de bienveillance. Même si c'est une personne qui est sur ses gardes ou autre, les attributs du leadership féminin vont quand même lui faire du bien, même s'il y a une résistance. Donc peut-être qu'intellectuellement, il y a une résistance de dire ça se peut pas, un leader, c'est quelqu'un de tenace, qui sait, qui a une expertise forte dans tel domaine, qui a des habiletés politiques très marquées, qui est un bon manœuvre pour se faufiler, qui sait bien manipuler, entre guillemets, mais positivement ou autre. Mais finalement... on peut se dire, même si on a cette idée préconçue du leadership, on peut quand même apprécier le fait que quelqu'un nous comprend quand ça va pas, ou le fait que quelqu'un ne nous tape pas dessus encore plus parce qu'on n'a pas rempli nos objectifs de performance, par exemple. Donc, situerais ça vraiment à deux niveaux.
Et je cite à la page 145, l'intuition, c'est cette capacité à cerner les messages subtils qui proviennent de son inconscient via sa petite voix intérieure ou ses ressentis. C'est de cette façon-là que vous décrivez l'intuition.
Oui, parce que je pourrais en dire plus, effectivement. Mais là, j'ai montré finalement le chemin par lequel l'intuition se glisse, effectivement.
Et comment on fait pour savoir que c'est une intuition qui monte, que ce n'est pas l'ego, en fait, qui veut réussir à tout prix?
Mais c'est vraiment une bonne question. Et là, en fait, quand on est dans l'intuition, je pense qu'il y a comme une sorte d'éclaircie, de clarté qui se fait, où on ressent plus quelque chose qui est la teneur d'un message plutôt que de la teneur de quelque chose qui va nous faire résister ou qui va nous mettre en souffrance. Parce que quand même, l'intuition nous dit « c'est peut-être pas la bonne voie, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui tu devrais, par exemple, que tu devrais engager ou autre. » Mais on sent quelque chose, mais sans avoir la chape de souffrance que l'ego peut nous amener. Dans une forme de dureté ou...
Comment tu décris la souffrance? Je ne comprends pas très bien...
Je fais la différence entre quand on a quelque chose de l'ordre de notre intuition, c'est comme une information qui monte et elle n'est pas forcément connotée, elle est assortie d'émotions, mais on n'est pas dans un espace de souffrance comme l'ego peut nous amener à vivre une souffrance.
Oui, d'accord.
Comme par exemple... en nous amenant une souffrance, parce que l'ego, en fait, ses directives, c'est souvent de venir catégoriser les pas bons, les bons. C'est de venir se comparer à d'autres personnes. Nous, on fait ça comme ceci, les autres font ça comme cela. De vouloir regretter le passé, le futur, stéréotyper ou autre. Donc, souvent, ça amène une forme de dureté, une forme de souffrance intérieure que, pour trouver un synonyme, c'est une forme de... On sent qu'on n'est pas dans la justesse, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la contraction, du micromanagement. Alors que l'intuition, c'est quelque chose qui est là pour nous porter, pour nous faire grandir. Et même si le message, c'est « non, on n'y va pas, je le sens pas », c'est pas quelque chose qui est forcément très souffrant, qui vient nous contracter. C'est plus quelque chose qui vient nous donner une information, puis qu'on peut récupérer quand on est connecté à soi. Est-ce que c'est plus clair quand je l'explique ainsi?
Oui, absolument. Absolument. Okay. Merci pour la précision. Est-ce que tu vois une différence entre l'intuition et le ressenti?
En fait, j'en vois une parce que le ressenti, c'est assez pratico-pratique. En fait, c'est assez simple. C'est l'idée de se reconnecter, c'est quand on se reconnecte à soi, ben on découvre qu'on a un corps, des émotions, des sensations physiques, que notre corps est vivant finalement. Et le ressenti, pour moi, c'est un peu tout ça. Alors on peut plus, certains vont dire que le ressenti, c'est plus de l'ordre des émotions ou autre. Mais dans tout ça, une fois qu'on se reconnecte à soi, qu'on a beaucoup plus conscience de soi, on découvre finalement dans notre corps qu'il y a plein de choses et... Une des catégories de ce ressenti, ça peut être l'intuition. Et l'intuition, c'est plus profond, c'est des messages que ça va nous amener à vivre, à réceptionner, pardon, des ressentis justement qui vont nous amener à peut-être nous dire « je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je fais un pas en avant » ou « non, non, surtout pas, je me sens comme bloquée, comme si je devais surtout pas aller là ». Donc ça, c'est vraiment le GPS intérieur qui peut...
Ah oui. Oui, le fameux GPS. Alors, reste avec nous, Marie-Ève. On va à une pause musicale. Et au retour, on parlera de quelle façon on met ça en pratique, cette fameuse intuition. Donc, pour l'instant, nous écoutons Pomplemousse.
que je dois faire pour te tourner la tête? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire
pour te tourner la tête? Pour te tourner la tête.
Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire
pour te tourner la tête?
Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire
pour te tourner la tête?
Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire?
C'était Prioritise-moi. Nous sommes de retour avec Marie-Ève Lissine, auteure du livre Entreprendre en conscience. Alors, quand on s'est laissé, Marie-Ève, nous parlions de... En fait, je veux t'entendre nous dire de quelle manière on met en application cette fameuse intuition quand on est leader, quand on est gestionnaire.
Alors, c'est une grande question, mais on peut y répondre simplement parce que expliquer comment on fait, c'est peut-être 1% du chemin. Parce que le vrai travail, c'est de le faire dans le concret. C'est comme lire un livre sur la méditation, ça ne t'amènera pas plus de paix d'esprit, mais au moins, ça va un petit peu te faire cheminer. Mais après, il faut bien sûr méditer. Donc, comment finalement rajouter cette portion d'intuition quand on est gestionnaire? Ben, déjà, il faut un parti pris de vouloir ramener le projecteur de conscience vers soi parce que ça se passe à l'intérieur de soi. Donc, parfois, on peut découvrir qu'on est une personne un petit peu déconnectée, qu'on ne ressent pas ses émotions, qu'on ne ressent pas ce qui se passe en soi. Mais on ne peut pas venir vouloir écouter son intuition si on est minimalement pas, quelque chose de très important, conscient de soi.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est vraiment très important. Donc déjà, de venir peut-être se reconquérir intérieurement et le faire avec une attitude de bienveillance, un peu du chercheur qui n'est pas là pour faire un exploit, mais qui est là pour aller dans une rencontre sincère. Donc du chercheur un peu anthropologue,
oui.
Qui vient à la rencontre de quelqu'un, mais qui va le faire sans forcément dire il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, etc. Donc c'est vraiment se retrouver parce que une fois qu'on se reconquiert, on trouve de tout, on trouve oui nos parts d'ombre, on trouve nos parts de lumière, on trouve tout ce qui fait nos talents, nos forces, notre beauté intérieure, mais on trouve aussi tout ce qui fait nos petits côtés qu'on n'a pas envie forcément d'étaler
oui.
Partout, mais c'est justement mettre un éclairage sur tout ça à travers cette introspection en ressenti, en émotion, pas une introspection intellectuelle de type psychanalyse, mais vraiment un retour à soi corporel,
oui.
De ressentir, etc., qui va nous permettre vraiment d'aller à la rencontre de soi, puis de créer finalement une rencontre qui soit totale, qui soit authentique avec soi, autant dans son ombre et sa lumière. Et c'est ça qui crée la confiance en soi aussi,
mm-hmm.
De se regarder vraiment.
Et est-ce que tu fais une différence entre la conscience et la pleine conscience, ou c'est la même chose?
Oui, vraiment. C'est que, juste pour terminer par rapport à l'autre question, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on s'est reconquéri avec cette conscience de soi, c'est encore plus facile après de dialoguer avec les autres. Donc, quand on est gestionnaire, quand on est leader, c'est bien pratique parce que mieux on se connaît, mieux on s'approprie qui on est. En pleine conscience, justement, plus après, on va avoir la facilité à dialoguer, communiquer avec les autres. Je ferme ma parenthèse par rapport à soi. Je fais une différence, en fait, entre la conscience et la pleine conscience, parce que la conscience, c'est un mot qui est difficile à expliquer, mais si on devait donner un synonyme qui est comme une côte mal taillée de la conscience, on pourrait dire que c'est l'attention, d'accord ? Notre attention, c'est ce qui nous permet de cerner la vie. Ce sur quoi on porte notre attention, ça donne vie à des choses. Et parfois, notre attention va se poser sur des choses qui vont nous faire souffrir ou sur des choses qui sont juste une partie de la réalité, une parcelle de la réalité. Donc, on ne va pas avoir un vrai portrait. Donc l'entraînement à la pleine conscience, c'est l'idée de prendre ce faisceau de conscience qui peut être très réduit, très petit, pour l'agrandir, et faire en sorte que finalement on est conscient de beaucoup plus de choses dans nos vies. Les choses qu'on voyait avant, mais des choses qu'on voyait pas avant, des choses qui nous passaient sous le radar parce qu'on n'avait pas travaillé finalement cette ouverture de conscience. Et quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que en ouvrant cette conscience-là, souvent on va être capable de voir des choses qu'on voyait pas, oui, mais d'être à la fois connecté à soi pendant qu'on est connecté à l'autre, par exemple quand on est en discussion. Est-ce que tu me suis quand on explique ça comme ça?
Oui, absolument. Et moi, je veux revenir à ce que tu disais un peu plus tôt, c'est-à-dire plus le leader se connaît ses intentions, ses émotions et tout, mieux il va interagir avec ses associés, ses employés. Et c'est vrai que quand on est capable de reconnaître en nous les émotions, on est capable en fait de les sentir et de les accueillir chez l'autre.
Tout à fait, exactement. Le chemin a déjà été parcouru pour nous. Et d'un point de vue purement physiologique, c'est vraiment l'histoire des neurones miroirs. Donc, c'est plus notre capacité à ressentir ce qui se passe chez nous, plus après, on va être au bon endroit pour anticiper ou en tout cas savoir cerner qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Là où avant, on se fiait juste à qu'est-ce qu'on pouvait voir.
Oui.
Là, on va voir à notre niveau, voir en confiance quelque chose. Donc, quelqu'un qui paraît tout guéri, hyper joyeux, mais derrière, il y a une profonde colère, une profonde tristesse. Ben, on va sentir cette dissidence entre qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on perçoit. Et ça, c'est vraiment notre travail sur nous-mêmes qui va nous permettre d'aller le capter.
Et tu parles aussi des intentions nobles. Et ça, je trouve ça très important et très intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui nous motive, nos paroles, nos gestes, notre implication, notre volonté d'interagir?
Oui, et ça, c'est encore un niveau. En fait, j'en parle dans mon livre de ces intentions nobles, oui. Quand on entreprend, quand on fait quelque chose, c'est en fait toujours se demander pourquoi on fait les choses, mais avec, dans le creuset finalement, de se faire sa propre son propre diagnostic moral, de vraiment faire les choses pour faire les choses bien, de la bonne façon, selon une certaine morale qui serait la nôtre. Parce que, comme j'explique, tous les gens en apparence peuvent paraître évidemment éminemment moraux, gentils, dédiés, c'est une oui. belle qualité authentique. Oui. Mais parfois, quand on gratte un peu, ben, on découvre que les intentions n'étaient pas si nobles. Mais quand on cherche à devenir un leader conscient, comme je l'ai un peu qualifié dans mon livre, oui. le leader conscient, il s'en fout finalement de l'apparence. Il cherche à être réellement lui-même et finalement à révéler une version de lui-même qui soit dans la lignée de ses valeurs les plus profondes. Donc, si ses valeurs les plus profondes, c'est la liberté, le respect, la bienveillance ou autre, mais il va d'abord chercher à faire en sorte que ses actes, que les intentions derrière ses actes sont empreintes de ces valeurs-là. Et pas juste faire des actes pour paraître bienveillant ou autre. Est-ce que tu me suis dans
oui.
la différence? Ouais, ça, c'est vraiment important.
Absolument, c'est très clair. Tu parles également de la créativité. Pourquoi il y a tant de tabous ou de mauvaises définitions sur la créativité quand on parle de leadership?
Mais en fait, c'est sûr que le mot créativité, il a comme été pas récupéré, mais associé à tout un monde qui est plus le monde de l'artistique.
Oui.
Et donc, du coup, c'est comme si on avait du mal à le découdre pour pouvoir lui donner une identité plus large qui viendrait englober toute notre vie. Parce que pour moi, la créativité, c'est pas l'apanage de celui qui sait bien dessiner ou qui a des bonnes idées manuelles. C'est quelque chose qui est profondément humain. Et donc, on est homme, en naissant homme ou femme, on est créatif, MIT créatif, parce qu'on a chacun à apporter quelque chose au monde. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des découvertes qui vont révolutionner, que chaque personne, les 7 milliards vont faire des découvertes qui vont tous révolutionner le monde. Ça veut dire que notre façon de voir la vie est unique et notre créativité se situe dans notre façon de voir la vie, puis dans le produit de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris et qu'on a à offrir au monde. Et comme gestionnaire, comme leader, comme n'importe quoi, quel type de personne dans la société, eh ben, on a chacun notre vision et notre créativité, notre devoir de créativité, il est dans vraiment l'idée de venir respecter et assumer la façon dont on voit les choses et pas forcément épouser systématiquement ce que pensent les autres ou ce que pensent un livre ou un auteur ou autre.
Oui. Tu sais, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu donnes des pistes pour développer ces compétences-là, c'est-à-dire tout ce qui est utile pour un leader, c'est-à-dire la présence, justement l'intuition, la créativité, la bienveillance, la responsabilité, le respect des autres, le discernement, l'audace. Alors, toutes ces qualités-là qu'un leader a besoin, tu dis que ça se développe. C'est pas des choses qui sont nécessairement acquises. On peut développer ça. Et ça, c'est très intéressant. Comment on développe l'intuition?
Oui, en fait, c'est sûr qu'il faut partir du prérequis que on n'est pas complet ou parfait, mais on mm-hmm. peut... On a des forces, on a des faiblesses. Puis quand c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la faiblesse, ben, il faut travailler, ça prend un petit effort, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais tout se développe, tout est possible. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois fermement. Ça ne veut pas dire que si on se met au piano, demain, on va concurrencer Mozart, mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire du piano. Il y en a qui font même du piano sans doigts, donc, tu sais, ou qui traversent des rivières sans membres. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est oui. le paroxysme que je dis là. Mm-hmm. Mais par rapport à l'intuition, puisque c'était notre thème central,
oui.
C'est d'abord de remarquer qu'est-ce que ça me fait chaque fois que j'écoute pas mon intuition. C'est arrivé à tout le monde, j'en suis sûre, de se dire « Ah, oh, j'aurais dû m'écouter
oui. ».
Oh, c'est comme mm-hmm. se dire « Ah, ok, bon, la prochaine fois, je vais essayer ». Donc, se faire un peu comme, se mettre un peu dans la casquette du chercheur, de celui qui tombe dans un piège systématiquement. Ben là, je vais essayer de faire autre chose pour avoir d'autres résultats.
Oui, puis de se faire, j'imagine, de faire confiance à cette intuition-là un peu plus chaque jour. Et c'est vrai que oui, tu as tout à fait raison de voir ce que ça fait quand on ne l'écoute pas. Souvent, on fait des erreurs.
Ben, exactement. Et en fait, souvent, le danger, c'est qu'on va vouloir tester son intuition sur des choses où il y a beaucoup d'enjeux.
Oui.
Donc là, on n'est pas libre. Mais on pourrait tester notre intuition sur des choses pas si importantes que ça. Tu sais, au pire, je me trompe. Mm-hmm. Mais par exemple, on sent quelque chose pour une amie ou une référence de livre qu'on veut lui donner, ça grouille en nous, on lui donne cette référence de livre, elle nous dit « Ah ben justement, j'en avais besoin, c'est vraiment mes préoccupations actuelles. » Ben là, on a visé juste, elle nous dit « Ah ben merci d'avoir pensé à moi, je savais pas que ça pouvait m'aider, mais, ça avait l'air de tomber à côté, mais peut-être pas. »
Merci beaucoup, c'est tout le temps que nous avons, Marie-Ève Lessine. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous, auteur du livre « Entreprendre en conscience », publié chez Septembre Éditeur. Merci.
Merci.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous aimez nos émissions? Vous pouvez les écouter sur canalm.vusevoix.com et en balado-diffusion. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec Céline Miron, auteure du livre « L'intuition chez les femmes d'affaires », publié chez Performance Éditions. Soyez avec nous.
fatigue voudrait que tu deviennes. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Faut moins de ton mieux, faut le moins d'avantage. Gave moins de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant neuve.
C'était avec podcast, la journée qui s'en vient est flambant neuve. Et parlant de flambant neuf, je rappelle le thème de l'émission ressenti et intuition au service du leadership féminin. Bonjour Céline Miron, bienvenue à Terre de Femmes.
Oh, merci, merci pour l'invitation, Marie.
C'est un plaisir, merci d'avoir accepté. Alors, tu as écrit, co-écrit en fait, l'intuition chez les femmes d'affaires, les intuipreneurs. Comment décris-tu les intuipreneurs? Je vois qu'il y a intuition là-dedans.
Oui, effectivement. Ben c'est parti d'un projet que j'ai eu, une intuition. Ça a parti vraiment d'une intuition. J'ai eu envie de mettre de la lumière sur des femmes entrepreneurs, autres que celles qu'on voit beaucoup à la télé.
Oui.
Et je me disais, ben comment on peut voir une Cora, mettons, à ses débuts? Comment on peut mettre la lumière sur ce type de femme-là, une entrepreneur à ses débuts?
Oui.
Et je me suis lancée le défi de rencontrer 100 entrepreneurs.
Oui.
Et alors, pour moi, les intuipreneurs, ben, c'était des femmes, je partais à l'aventure pour leur parler de l'intuition, pour avoir leur point de vue sur l'intuition. Pour qu'on démystifie un peu l'intuition chez les gens d'affaires, surtout les femmes d'affaires. Parce que je me suis rendu compte que c'est un peu tabou comme sujet.
Oui, absolument. Et est-ce que tu crois, Céline, que c'est attribué ou attribuable seulement qu'aux femmes, l'intuition?
Ah non, pas du tout.
Non?
Pas du tout. Je pense que les hommes, ils l'ont. Ils l'ont même très fort, puis depuis toujours. Sauf qu'eux, ils vont appeler ça le « guts ».
OK.
Hein? Puis là, c'est de... Du coup, ça va être très valorisé. Ils vont appeler ça l'instinct.
Oui.
Et souvent, de leur père, ça va être valorisé. Mais nous, sur le côté des femmes, je peux dire que c'était moins valorisé. C'est plus du sort de trop émotif. On a associé ça, oui, les femmes, ça. Avec l'émotivité.
Tout à fait. Donc, l'intuition, c'est pour les femmes. Est-ce que toi, tu as vu, parmi les entrevues que tu as réalisées, les capsules que tu as faites, est-ce que tu as vu qu'il y avait des femmes, en fait, qui avaient commencé avec le modèle masculin, c'est-à-dire une gestion un peu plus rigide. Est-ce que tu as vu ça ou c'était...
Tout à fait, parce qu'on part... On part souvent avec cette base-là, on l'a appris dans nos écoles.
Oui.
Hein? L'école, le modèle, c'est, il n'est pas matriarcal, il est patriarcal.
Oui, absolument.
Il vient très, c'est dans nos écoles, si on fait un MBA ou... on apprend des modèles d'affaires d'hommes.
Oui.
Et là, souvent, c'est quand on essaie d'appliquer ça dans nos entreprises... On ressent, il vient à un moment donné où il y a une dichotomie.
Oui, voilà.
Il y a un déchirement entre nous, notre essence profonde, mm-hmm. puis ce qu'on a appris à l'école. Et là vient un combat entre la tête et le cœur, ou entre la tête et notre âme, bien souvent.
Et quand l'intuition, bon, c'est bien pour les femmes et tout, mais on a quand même aussi besoin du côté, je dirais, plus... cérébrale.
Oui.
Quelle quantité t'attribues pour faire une bonne gestion? Est-ce que c'est du 50-50?
Ben, je vais te citer Albert Einstein là-dessus, que je trouve tellement une belle citation. Lui, il dit « L'esprit intuitif est un cadeau, un don sacré, et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle.
Mm-hmm. »
Nous avons créé une société qui honore le serviteur, mais qui a oublié le don.
Mm-hmm. Ah, c'est bien, hein?
Ça dit tout. Tu sais? Ouais. Alors, oui, ça prend le rationnel,
ouais.
Mais je pense qu'on est maintenant à l'heure de ramener le rationnel à sa valeur 50-50. Pour ce qu'il vaut, mais on a tellement valorisé le rationnel, les mm-hmm. connaissances. Puis on a fait fi de l'intuition.
Est-ce que l'intuition est toujours juste? Est-ce qu'on peut se tromper en suivant notre intuition?
Quelle bonne question. Je vais me référer à moi. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, « Ah, j'ai suivi mon intuition et j'ai pas l'impression que c'était
une bonne chose.
Une bonne chose.
Ouais.
Mm-hmm. Tu sais, je vois ça avec du recul, puis... il me semble que j'ai pas appris grand-chose là-dedans.
Mm-hmm. Mais t'as pas réussi.
Oui, j'ai réussi, mais pas comme je voulais.
Ah, OK.
Okay? Et mais pourtant, j'étais certaine que j'avais écouté mon intuition. Mais c'est après plusieurs années, je te dirais,
mm-hmm.
que un peu comme à la Steve Jobs, quand il dit « connecting the dots
ouais. »,
de se retourner puis de voir et de relier les points. Et là, je vois, puis là, je suis capable de dire oui, finalement. C'était une bonne chose. Alors, pour moi, l'intuition est toujours juste.
OK, sauf qu'on ne le voit pas sur le moment.
Pas tout le
temps. Ça peut être quelques années plus tard.
Oui, oui. Tu sais, si on a l'impression que c'était pas exactement ce qu'on souhaitait.
Mm-hmm.
Mais dans le fond, moi, je me dis, notre âme... Parce que pour moi, l'intuition, oui. c'est le murmure de notre âme.
Mm-hmm.
L'intuition murmure, elle chuchote.
Oui.
Elle nous envoie des petits indices pas forts. Fait que c'est à nous d'être perspicaces, mais c'est à nous de calmer le mental
mm-hmm.
ou d'avoir accès à cette oui. paix intérieure-là pour pouvoir entendre
oui.
l'intuition.
Et ça se manifeste de quelle façon, ça, dans le concrètement?
Ça se manifeste, encore là, pour
peut-être
moi...
Peut-être physiquement?
Oui, c'est ça. Mm. Moi, il y a des... Ben, à travers le ressenti,
oui.
à travers des manifestations physiques, des frissons, des pétillements.
Mm-hmm.
C'est souvent, pour moi, quand l'intuition... J'ai une intuition qui est... positive, qui m'amène vers un flow, vers une activité extraordinaire, tu sais, oui. vers des actions inspirées, je peux mm-hmm. dire. Là, tu sais,
oui.
ça m'inspire à passer à l'action, puis là, je vois pas le temps. Et puis, on dirait que je suis soutenue par l'univers.
Oui.
Tu sais, ils disent, fais un pas, oui. l'univers va en faire deux. Mm-hmm. Pour toi, dans ces moments-là, quand je suis mon intuition, C'est vraiment souvent accompagné d'action, puis c'est facile.
Et peut-être qu'à l'inverse, quand on n'est pas sur la bonne voie, on se sent mal à l'intérieur. Il y a des gens, des fois, qu'on côtoie puis qui nous font sentir mal. Mm. Et ça, c'est aussi l'intuition qui nous parle, mais à l'inverse, qui nous dit c'est pas bon pour toi ou c'est pas la bonne voie ou c'est pas... Même en entrevue, j'imagine, quand on passe quelqu'un en entrevue, on doit ressentir quelque chose en dedans, cette personne-là, convient ou pas.
Oui, tout à fait. Puis là, ben moi, j'ai tendance à dire, c'est est-ce que ça serait de l'instinct à ce moment-là?
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
Mon point de vue... Oui, parce que mon point de vue, pour moi, l'intuition, elle est juste et toujours positive.
Ah, OK, d'accord.
Elle est vraiment pour le bien de notre âme tout le temps.
Mm-hmm.
Alors, quand dans un cas, par exemple, d'entrevue...
Oui. Où on se sent mal?
Oui, c'est ça. Je dirais plus que c'est l'instinct à ce moment-là.
Ah, OK.
Notre
voilà
instinct qui est là.
Donc, l'intuition est toujours positive. Ouais. On garde ça en tête, on fait une pause musicale et on revient tout de suite après avec l'instinct qui est toujours positif. Merci beaucoup, Céline Miron.
Point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici. Ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant.
De corps et d'esprit de Bertrand Belin. Nous sommes toujours en compagnie de Céline Miron, auteure du livre L'intuition chez les femmes d'affaires. Et quand on s'est laissé, Céline, on parlait de l'intuition qui est toujours positive. Donc, dis-moi, les femmes gestionnaires sont meilleures, ou je vais poser la question autrement, est-ce que les femmes très intuitives font de meilleurs gestionnaires?
Ah ben, ça rejoint un peu la dame qui était avant moi,
oui,
hein, sur...
Marie-Ève Lessine.
Oh, oui, c'est ça, qui parle du leadership conscient.
Oui.
Alors, entreprendre avec conscience. Je pense que quand on laisse la place à notre intuition,
oui,
ça nous permet d'être, en tout cas dans une authenticité, et d'être en pleine conscience à ce moment-là. Oui, je dirais que oui.
Donc, elles sont de meilleures gestionnaires. Tu avais mentionné quelque chose dans ton livre que j'aimais beaucoup, que tu disais... attends un petit peu, je retrouve la page. Tu dis « Celles qui acceptent de suivre leur GPS intérieur ou qui développent leurs compétences intuitives sont moins sujettes que d'autres à la dépression, à l'angoisse ou à l'épuisement professionnel », à la page 29.
Mm-hmm.
Comment t'expliques ça?
Ben, en fait, c'est appuyé sur des statistiques,
oui,
et des études, mais oui, parce que on fait fi un peu de... On est plus aligné avec qui on est vraiment dans notre essence profonde versus les connaissances, versus qu'est-ce qu'on a appris, versus nos croyances, nos programmations.
Mm-hmm.
Hein? Alors, on revient plus à la source. Et même Steven Spielberg l'a dit aussi, que lui, il a pu se dépolluer de ces croyances-là, de toutes ces connaissances pour pouvoir avoir accès encore plus à son intuition.
Mm-hmm.
Tu sais, puis là, on parle d'hommes qui nous parlent d'intuition.
Et dans toutes les... Dans toutes les femmes que tu as rencontrées, les entrepreneurs, laquelle t'a marqué le plus par justement ce côté intuitif-là?
J'ai eu une belle rencontre avec Marie-Ève Lejour, qui est la propriétaire de la savonnerie des Diligences.
Mm-hmm.
Premièrement, quand je l'ai rencontrée, c'était un coup de cœur. Et elle était vraiment... Aujourd'hui, dans son entreprise, elle se dit qu'elle est une master de transformation de défis.
D'accord.
Puis elle les fait vraiment à partir de son intuition. C'est qu'elle écoute qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui la sert bien. Puis souvent, là, ça peut être de partir, hein? De partir en voyage le temps que l'entreprise est en croissance.
Oui.
Puis, normalement, on dit, ben voyons, c'est pas la chose logique à faire.
Non,
mais quand on écoute notre intuition, souvent, c'est la dernière chose rationnelle à faire. Tu sais, c'est d'écouter son intuition, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme, je me trompe un peu, là, mais c'est dans le sens que au lieu d'écouter ce qui devrait être logique,
logique.
On y va, on se connecte avec l'intuition qui, parfois, est tellement... à l'opposé du rationnel. Tu sais.
Et ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement des temps difficiles. Si on décide de démarrer notre entreprise, admettons, ce n'est pas parce qu'on suit notre intuition qu'on n'aura pas de période plus creuse ou que ça ne veut pas dire que ça va aller toujours bien.
Ça ne nous met pas à l'abri de ça du tout. Cependant, on peut le voir, l'intuition comme une alliée par contre. Dans des temps difficiles, dans des temps de défis, dans des temps de doutes, de peur. Parce que quand on est là, on n'est pas connecté à notre intuition.
Mm-hmm.
Souvent, c'est ça. Là.
Ça va nous indiquer aussi, ça va probablement nous indiquer, oui, le chemin à prendre pour sortir de cette période difficile-là.
Oui. Puis souvent, c'est encore là, pas des chemins traditionnels, des traditionnels. Pas des chemins qu'on a l'habitude de prendre. Et puis c'est là, encore là, que la logique vient, le rationnel ou notre mental vient nous dire, ben non, ça n'a pas d'allure, ça.
Donc, jamais on sent qu'il y a une personne qui est plus qui ne cadre plus dans notre équipe ou qui a changé ou que... si on sent qu'on doit remercier cette personne-là, Est-ce que ça, ça vient pas de l'intuition parce que c'est pas positif? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je comprends bien?
Ben, il faut faire attention aussi, hein, d'identifier l'intuition parce que c'est tellement mince,
oui,
entre,
voilà,
l'intuition,
c'est pas facile,
puis le mental ou nos peurs ou la partie égoïque en nous.
Oui.
La partie égoïque va nous amener ailleurs. Oui. Va nous amener dans nos peurs, va nous amener dans le raisonnement.
Mm-hmm.
L'intuition, moi, je l'attribue toujours au positif.
Oui, mais ça peut être positif aussi qu'on remercie quelqu'un,
oui,
qui ne cadre plus dans l'équipe,
oui,
de travail.
Oui, tout à fait, tout à fait. Fait qu'il faut écouter ça aussi, puis mm-hmm, d'y aller à ce moment-là en tant que leader conscient.
Et avoir de l'intuition, pour toi, Céline, c'est pas tout. Tu écris dans ton livre, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de belles intuitions qui sont montées, puis
c'était laissé là.
Oui, parce qu'on n'est pas passé à l'action.
Exactement.
Donc, comment tu nous incites à passer à l'action? Mettons quelqu'un une femme qui est très rationnelle, puis qui a envie de se démarrer une entreprise... je sais pas quoi, de chapeau, puis qu'elle le fait pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, pour dire, écoute, suis ton intuition, ça vaut le coup?
Ben,
Comment on décide à passer à l'action?
Ben, c'est ça, c'est qu'on reste dans nos peurs, on est dans l'analyse, on est dans les doutes.
Mm-hmm.
Puis souvent, ben, c'est là que le mental intervient, puis il essaie de nous protéger, de pas aller dans une zone qui n'est pas sécuritaire pour nous,
mm-hmm,
d'après le mental.
Oui.
Alors, c'est de faire, pas fi du mental, mais plutôt de prendre de la distance et de s'observer. D'observer le côté qui nous dit,
mm-hmm,
notre côté mental qui nous parle, mais de prendre le temps d'écouter aussi cette petite voix-là à l'intérieur de nous qui nous murmure quoi faire.
Oui.
Puis souvent, c'est là que ça devient un choix. Et de faire le choix d'écouter son intuition, après, mm-hmm, ça, pour moi, c'est la facilité.
Mm-hmm.
Parce que ça vient avec des gestes qu'on peut... des actions inspirées.
Mm-hmm.
Ouais.
Et cette intuition-là, comment je pourrais dire, comment on la met à notre service? Comment on différencie l'intuition, en fait, de... Je le veux absolument. Est-ce qu'on peut dire que si elle revient sans cesse, je ne sais pas, ça fait un an et demi que le projet revient tout le temps. Est-ce que ça, c'est de l'intuition ou c'est de l'obsession?
ça aussi, c'est mince comme... je pense que l'intuition va toujours être là parce qu'elle est très perspicace.
Elle revient.
Elle revient parce qu'on n'écoute pas tout le temps.
Mm-hmm. Puis, mais non, ça n'a pas été valorisé.
Puis ça vient de notre belle partie de nous. Hein.
Mm-hmm.
C'est notre côté, je l'appelle parfois notre côté divin.
Oui.
Fait que cette partie-là ne nous veut pas de mal.
Mm-hmm.
C'est pour notre expansion, c'est pour notre évolution. Alors, c'est
et toi, tu l'as suivi, hein, pour démarrer,
ah, oui,
ton entreprise, hein, Céline?
Plusieurs fois, plusieurs,
ouais,
fois.
Ça ne t'a, ouais, jamais trompé?
Non. Non, jamais. Puis une des belles dernières fois, c'est que par un coup d'intuition, j'ai demandé mon mari, mon homme en mariage.
Ah oui?
Oui. Alors...
on n'est plus en business, c'est pas grave, c'est beau.
Oui,
c'est beau.
Ça,
merci infiniment, Céline Miron, d'être venue nous rencontrer en studio. C'est extraordinaire. Donc, vous avez co-écrit avec Lynn Felteau « L'intuition chez les femmes d'affaires, les intuipreneurs ». Merci infiniment. Publié chez Performance Édition.
Oui.
Merci, Céline.
Merci.
Un immense merci à nos invités, Marie-Ève Lessine, auteure du livre « Entreprendre en conscience » publié chez Septembre Éditeur, ainsi que Céline Miron, auteure du livre « L'intuition chez les femmes d'affaires » publié chez Performance Édition. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier, évidemment, à vous qui nous écoutez, qui revenez d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Michelle Obama. La réussite, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est avoir de l'influence pour améliorer la vie des autres. Ici Martin Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.